Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première émission de Cinémag sur Diversité FM, l'émission qui parlera de cinéma dans tous ses états. Je suis Magali et je vous propose d'embarquer avec moi pour un voyage au cœur du 7e art. Infos, avis critiques sur les films d'hier et d'aujourd'hui, en passant par les séries télé. Nous aborderons dans cette émission plusieurs facettes du cinéma, des aspects esthétiques, créatifs, aux aspects les plus techniques que nos invités professionnels du milieu pourront nous expliquer. Pour m'accompagner aujourd'hui, celui qu'on n'a plus besoin de présenté sur notre antenne, l'abominable, l'impertinent, mais néanmoins audacieux Cédric.
Et moi, je vous présente la fabuleuse, l'éclectique, l'impétueuse Magali. Donc Magali, alors c'est ta première émission aujourd'hui sur les ondes de Diversité FM. Tu es une aficionado du cinéma et de la culture cinématographique. Donc c'est pour ça qu'on te donne la possibilité de faire une émission à vocation dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel. Et Magali nous a proposé cette émission Cinémag. Alors ton univers du cinéma, toi tu l'as rencontré comment ce cinéma-là, ça, depuis toute jeune ou t'es venue au cinéma un peu plus tard?
Non, depuis très jeune en fait. C'est vraiment ma maman qui m'emmenait au cinéma petite, qui était cinéphile et donc voilà, les VHS enregistrées chez moi, donc dès petite et j'étais vraiment scotchée à la télé tout le temps.
Tu as grandi dans l'univers du cinéma et aujourd'hui t'as envie d'amener les auditeurs, les auditrices et les internautes avec une aventure, ouais. Une aventure radiophonique, mais avec comme objectif le cinéma, le 7e art, mais aussi les séries et l'envers du décor de ce milieu-là.
Exactement, vraiment les séries prennent vraiment une importance capitale aujourd'hui. Il y a même des gens qui ne regardent plus que ça et moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc cinéma comme série, on va essayer de s'intéresser un peu aux deux et aux spécificités du genre.
Mais aussi dans cette émission, tu vas bien sûr faire des pauses musicales, on mettra des musiques de films, qu'elles soient un peu plus anciennes ou qu'elles soient récentes, toujours dans la règle de l'art, des BO de films, l'ambiance ou même aussi des musiques de films. T'es d'accord avec moi, des fois il y a des groupes, des artistes qui proposent une musique de film, comme les films de James Bond par exemple, il y a la chanteuse du film, etc. Qui va interpréter le film, le nouveau film. Et puis aussi les musiques d'ambiance aussi qu'on peut écouter aussi dans différents types de films, que ce soit du dramatique, de l'action, même de l'horreur ou n'importe quoi. Donc voilà, on ne s'interdit rien avec Magali.
On ne s'interdit rien et vraiment j'aime le cinéma ancien, noir et blanc, comme les choses qui sortent aujourd'hui, le cinéma un peu d'arrêt d'essai, d'auteur, comme les blockbusters. Donc on va essayer de toucher un petit peu à tout. Et l'aspect aussi plus technique.
Qu'on entend très peu au final, qu'on ne voit pas assez.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai que parfois on parle un peu dans les making-of des différents métiers du cinéma, mais c'est vrai qu'on ne va pas forcément plus loin dans le détail. Et pourtant, il y a de l'emploi, c'est un secteur d'avenir, et que ce soit en France ou à l'étranger, et il y a de plus en plus d'évolutions technologiques qui fait des nouveaux métiers qui rentrent dans le cinéma, notamment avec tous les effets spéciaux, etc. etc. Également aussi, on pourrait te rencontrer à travers des avant-premières, on pourra te rencontrer aussi à travers d'interviews particulières avec des célébrités. Ça aussi, c'est envisageable, que ça soit dans les studios de Diversité FM ou que ça soit sur un tournage.
Oui, exactement. C'est vraiment le but d'aller peut-être un peu sur le terrain ou de faire venir des professionnels pour nous parler un petit peu de leur expérience des tournages.
Et Dieu sait que notre région Bourgogne-Franche-Comté est riche en histoire sur le cinéma, on va en parler, et également aussi en tant que tournage, il y a des tournages de films, parfois des séries, mais la région Bourgogne-Franche-Comté finance d'ailleurs, aide la conception de courts et de longs métrages sur le territoire.
Oui, justement, donc c'est l'objet de cette première émission, on va vraiment voir que la Bourgogne-Franche-Comté est une terre de cinéma, vraiment avec les origines, donc on a les frères Lumière nés à Besançon, Étienne-Jules Marais à Beaune, puis on pouvait remonter même au-delà, à la photographie avec Nice et Fornieps à Chalon, on a vraiment
un village à côté de Chalon-sur-Saône.
Un village, pardon.
Et n'oublie pas l'usine Kodak à Chalon aussi, sur Saône, à l'époque.
C'est vrai.
Et le zoom qui a été inventé à Dijon.
Dans la région, une richesse et...
Et un grand compositeur de films aussi qui habitait à Dijon, derrière la gare, le Grand Bleu, Éric Serra.
Le cinquième élément.
Et le cinquième élément, etc. L'aficionados de Luc Besson.
Aujourd'hui dans l'émission, on va justement retourner aux origines du cinéma qui naît dans notre belle région. Alors dans une première partie, on va voir un petit peu la naissance de la photographie et qui mène au cinéma, puisque ce sont des bourguignons des bourguignons et Bourgogne-Franche-Comté même à l'origine. Dans une deuxième partie, on verra qu'il y a aussi des tournages, énormément de films qui se sont passés dans la région. Et puis enfin, une troisième partie où nous verrons un petit peu l'actualité, les films qui sortent aujourd'hui ou qui sont tournés dans la région.
À savoir que dans notre belle région, les gens sont demandeurs, les collectivités sont demandeurs auprès du milieu national ou même international. national de faire, de réaliser des tournages ou même des courts-métrages sur le territoire. Et il faut savoir aussi qu'on a quand même un patrimoine exceptionnel pour faire des films.
Oui, touristique aussi, dans l'architecture, qui sert beaucoup pour les films d'époque, notamment. Alors, justement, en repartant aux origines du cinéma, on peut citer quand même Nicéphore Niépce, enfin Joseph de son prénom, qui a pris le surnom de Nicéphore plus tard, qui est né à Chalon-sur-Saône.
Et il était notamment, il vivait un village à côté de Chalon-sur-Saône.
Mais alors moi, j'avais trouvé qu'il était né.
Ah, il peut être né à Chalon parce que t'avais qu'une femme à l'époque qui naissait même dans les villages. Il habite un village à côté. Varennes-le-Grand.
Non, mais moi j'ai trouvé né à Chalon-sur-Saône. Donc Nicéphore Niépce, né à Chalon-sur-Saône en 1765. Donc on est au XVIIIe siècle.
Il a connu Louis XVI.
Oui, et son père qui était avocat, conseiller du roi et receveur des consignations du Chalonnais. Donc qui s'est intéressé justement aux pierres propres à la lithographie. Hein, et justement qui s'occupait dans les carrières de pierres calcaires autour de Chalon-sur-Saône et pour développer un petit peu ce qui va servir à la photo, en fait, à développer la photo. Donc le principe d'image gravée sur cuivre, la méthode un petit peu des eaux fortes, de la gravure en fait. Qui s'est associé avec Daguerre, justement, ça avait donné les daguerréotypes, les images.
Toutes les méthodes techniques du développement qui est l'aboutissement, c'est la photographie.
Mmh. Oui, voilà, donc association avec Daguerre, spécialiste de la chambre obscure, et qui va travailler sur l'amélioration de la luminosité, des qualités de l'image. Donc ils vont s'associer un petit peu pour faire des travaux de recherche. Par contre, c'est vrai que c'est bien plus tard qu'on a salué les travaux de Niépce, qu'on a redécouvert un petit peu son apport. Et puis on a aussi Étienne Jules Marais à Beaune.
C'est la Côte d'Or.
C'est ça. Donc né à Beaune le 5 mars 1830, qui était médecin et physiologiste français. Donc il était un petit peu atypique et touche à tout. Donc c'est considéré comme un pionnier de la photographie aussi et précurseur du cinéma.
Il a permis. Chercheur, il était bricoleur. C'était un peu le Géo trouve tout de la région, je pense.
C'est ça.
Parce qu'il nous a inventé un fusil photographique.
Exactement. Qui met au point le chronophotographe.
Voilà, qui ressemble à un fusil. C'est hallucinant, le concept.
C'est ça. Ouais. Qui pouvait prendre 12 photographies en pointant quelque chose. Donc lui, justement, c'était vraiment un travail de scientifique. Il avait l'ambition de fixer des images et de décomposer les mouvements du corps humain.
Oui.
Il s'était appuyé sur les travaux de l'américain Muy Bridge, qui avait aussi décomposé les mouvements comme ça. Il avait commencé avec le vol d'un oiseau, de décomposer le vol d'un oiseau, puis son assistant qui était un ancien sportif. Voilà, il avait filmé lui-même.
Les chats aussi, les animaux, notamment les chevaux.
C'est ça.
Et les hommes, les mouvements. Mouvements des hommes et mouvements aussi dans le cadre d'une espèce de réparation de l'homme. Il a vraiment calculé, défini le mouvement.
Et justement, donc, travaille sur la projection d'images scindées qui représente le mouvement, la locomotion humaine et animale. Voilà, donc on a quand même ces deux précurseurs dans la région. Et puis, bien sûr, les frères Lumière. Les célèbres frères Lumière, nés à Besançon. Alors, leur père, par contre, Antoine Lumière, était né en Haute-Saône, en 1840.
Et il faut savoir que les frères venaient souvent sur Dijon et sur Beaune croiser et voir Jules-Étienne Marais à un moment.
Oui, de toute façon, je pense que la communauté un peu scientifique...
Ça s'inspirait,
ça se copiait, ça s'aidait, ça collaborait. Et donc, ils ont quand même été poussés par leur père, qui, justement, s'était établi à Besançon, comme peintre et comme photographe lui-même.
Ah oui.
Donc voilà, ils étaient un petit peu nés dedans et ils ont développé des choses sous l'impulsion de leur père.
Et puis après, ils sont partis dans une autre contrée.
À Lyon, voilà. Ils ont déménagé ensuite à Lyon. Il y a d'ailleurs l'Institut Lumière actuellement à
Tout
Lyon
à fait.
Et le Musée du cinéma.
L'université aussi. Ouais. Et l'école du Lumière.
Oui. Mais le musée du cinéma est vraiment très intéressant à visiter.
D'ailleurs, je pense qu'il faudra faire une émission spéciale ou un reportage là-bas à l'avenir.
Oui, pourquoi pas. Parce qu'ils ont vraiment une belle collection avec des décors, des morceaux de décors, des objets qui ont servi. Je crois qu'il y avait le hoverboard de Retour vers le futur. Ah ouais. On a l'animatronique d'Alien qui bouge vraiment et c'est assez impressionnant.
C'est fou, hein.
Donc, il y a vraiment une belle collection. Pour ceux qui passent à Lyon, vous pouvez aller visiter le musée. Je disais que les frères Lumière sont incités par leur père à travailler en direction de l'image animée, justement, et ils vont inventer le cinématographe.
Oui.
Alors, d'après les travaux d'Edison.
De Thomas Edison.
Oui, Thomas Edison, c'est ça, qui avait fait le kinétoscope. Et donc, ils reprennent un petit peu ces travaux. Ils ont été inspirés parce qu'ils ont vu une projection privée à Paris, que finalement, les premières projections étaient très... confidentiel.
Ah oui, bien sûr.
Mais ce sont les frères Lumière qui vont filmer le premier film qui va être regardé par un plus grand public, c'est La Sortie d'usine. Une sortie d'usine, voilà, en 1895, premier film vu par une plus large audience.
Tout à fait, ouais. Dans une salle de cinéma directement.
C'est ça. Et donc, ensuite, bah, les séances vont s'enchaîner, le cinéma est lancé.
Il y a eu aussi le cinéma en mouvement avec la captation du côté du sud de la France par les frères Lumière où ils ont filmé des gens et bien sûr le fameux train qui avance dans la gare de La Ciotat. Mm-hmm. C'est peut-être bien en 1897, je sais pas si tu as cette date-là,
j'avais plus la date, mais oui, ça doit être dans ces eaux-là parce que c'est vraiment 1895 que eux ont filmé en premier, ont commencé leur recherche et à avancer. Et ce qui est un petit peu amusant, c'est que le mécanisme le brevet, on a retrouvé le brevet de la machine et le mécanisme s'apparente un petit peu à une machine à coudre en fait.
Ah, c'est fou,
un mouvement, donc il s'était inspiré de ça, parce que le processus était similaire. Alors à l'époque, c'était 16 images par seconde. Maintenant, c'est 24 par seconde, c'est un petit peu plus, un peu moins saccadé, on va dire. L'aventure des tournages peut commencer ensuite avec ses précurseurs. Et,
mais sans la couleur quand même.
Oui, noir et blanc, muet, ça va mettre du temps à se mettre en place.
Voilà,
mais voilà, on peut reconnaître ça. On a dans la région quand même trois talents dans le milieu de la photographie et du cinéma.
Trois pionniers.
Et voilà, ça n'est pas rien.
Et on peut rajouter qu'il n'est pas dans notre région, mais c'est Georges Méliès qui est aussi, là, dans un autre univers. Et
la
encore plus large.
Magicien
international,
à la base,
lui, à l'échelle internationale, dans ses découpages, ses montages, ses effets spéciaux. C'est le précurseur. Et les Français, une fois de plus, Georges Méliès.
Et puis les premiers effets spéciaux, finalement.
Et je crois qu'on peut retrouver des archives d'interviews radio de lui au sein de l'INA ou au sein peut-être de Radio France, des témoignages de lui dans les années 20, 30 ou autres. Ça, c'est encore probable et possible. Mmh. Donc voilà. Et d'ailleurs, beaucoup d'Américains ou d'étrangers se sont inspirés de ce qu'a fait Georges Méliès et de grands réalisateurs et producteurs de cinéma international.
Ah oui, bien sûr, ça reste une référence incontournable. Alors, on va passer dans une deuxième partie aux films qui ont été tournés en Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'il y en a pas mal quand même.
Et oui.
Alors, on va commencer avec le film de Cédric Clapiche, qui, je crois, était passé sur l'antenne de Diversité FM.
Cédric Clapiche était en interview sur les ondes de Diversité FM, puisque c'est quelqu'un qu'on a déjà eu la chance, par d'autres activités, de croiser plusieurs fois et d'interviewer. Et ça devait être en 2019. Il avait pris un bon quart d'heure avec nous, on avait bien déconné, et il avait transmis sa bonne humeur à l'antenne lors d'une interview pour parler un peu du cinéma, du climat actuel à l'époque, c'était en 2019, de son envie, puis de l'évolution du cinéma. Et aussi, on avait lancé un message pour les jeunes aussi, que de ne pas hésiter à tenter leur l'aventure au cinéma aussi.
Donc Cédric Clapiche avec Ce qui nous lie, qui a été bien évidemment tourné en Bourgogne, en Côte d'Or même, puisqu'il prend pour thème une exploitation viticole tenue par des frères et sœurs. Et donc on était au cœur vraiment du vignoble bourguignon. Cédric Clapiche qui réalise Ce qui nous lie en 2017 au cœur du vignoble bourguignon et puis avec un beau casting puisqu'on a Pio Marmaille, Anna Girardot, François Civil, voilà, donc qui joue trois frères et sœurs, une famille bourguignonne qui est dans le monde viticole, et l'un des frères, en fait, parti en voyage autour du monde, revient en apprenant la mort imminente de son père. Il revient sur ses terres d'enfance. Il retrouve sa sœur Juliette, son frère Jérémy. Et puis, ce père qui décède au début des vendanges laisse le terrain, le terroir familial à ses trois enfants qui vont devoir un petit peu s'arranger entre eux et faire fructifier le domaine. Voilà. On va d'ailleurs écouter un petit intermède musical de Ce qui nous lie. Thank you.
l'instant sur les ondes de Diversité FM dans cette première émission de l'émission Cinémag. Le titre, le projet Kraken Unit et le titre Sans Père, extrait du film Ce qui nous lie. Alors Magali, t'avais des choses à nous préciser.
Et juste j'ajoutais, c'est vrai que dans la fratrie, c'est le film insiste aussi hein, sur la place de la femme et la jeune sœur qui est un petit peu obligée de s'imposer face à ses deux frères pour prendre les choses en main, donner des décisions. Elle est un petit peu remise en question parce que c'est la fille. Et donc il y a toute cette problématique là qui est abordée et qui est assez intéressante. Un autre film cette fois, alors non plus sur le vin mais sur le chocolat. Je pense que tu vois duquel je parle.
Probablement. Ouais. Mais des fois j'ai des incertitudes.
Alors qui était cette fois tourné en grande partie à Flavigny-sur-Oserin, un film de Lasse Hallström, j'espère que je prononce bien, avec Juliette Binoche et Johnny Depp quand même.
Ah oui, ah oui, Johnny Depp a aimé Flavigny-sur-Oserin.
Oui, qui aime la France et qui a vécu, pas mal. Je sais pas s'il habite encore, mais...
Oh, il doit avoir encore une résidence.
Oui.
Mais de toute façon, il faut savoir que Johnny Depp parle très bien français.
Oui.
C'est surprenant, avec beaucoup de tact et beaucoup d'écoute. Johnny Depp, il était, bien sûr, c'était le compagnon de Vanessa Paradis.
Vanessa Paradis, oui.
Et du coup, c'est vrai qu'il a un rapport à la France qui est assez
qui est privilégié.
On le voit à l'époque dans 21 Jump Street, on se dit pas que lui on va le retrouver en France à l'avenir rapidement. C'était un peu fou et en plein succès hein, il est venu en France alors que c'était une star internationale. Une belle aventure l'a emmené jusque dans notre territoire.
Et donc ce film était adapté d'un roman de Joan Harris. Alors ça se passe durant l'hiver 1959. Donc Le Chocolat, un film de 2001 quand même, hein, ça remonte. Et donc en effet, qui se déroule durant l'hiver 1959, Vianne Rocher s'installe avec Anouk, sa petite fille, à Lanquenay, une petite bourgade française. Et puis en quelques jours, elle ouvre une confiserie à proximité de l'église. Voilà, une chocolatière hors pair, qui va faire ressortir la gourmandise des villageois. C'est vrai que ça se tourne à Flavigny, c'est plutôt l'Annie de Flavigny qui est connue, mais là le thème était le chocolat.
En tout cas, c'est un bon remède pour les épicuriens des confiseries.
Oh oui, les bons vivants. C'est vrai que le terroir bourguignon regorge de bons plats, de bons vins, de bons fromages, etc.
Je pense que nous sommes une région d'épicuriens.
Oui. Alors, on peut remonter également un peu plus en arrière hein, pour des films plus anciens dont les décors étaient souvent en Bourgogne également. Alors, on peut citer Les Valseuses de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu. Alors, Les Valseuses, c'est sorti en 1974. C'est aussi une adaptation du roman du même nom et qui a connu un certain succès en 1972. Donc, finalement, il a été adapté après.
Rapidement.
Voilà, où on se rappelle, hein, donc Patrick Devers et Gérard Depardieu qui jouent un petit peu deux canailles avec une forte amitié. Voilà, exactement. Et deux révoltés un peu en cavale qui veulent vivre à fond leurs aventures, qui vont être quand même en fuite, hein, oui, en cavale. Oui. Et ce sera un petit peu ponctué de plusieurs provocations, d'agressions et également de rencontres, de belles rencontres, amusantes et tendres parfois.
Puis une complicité avec Miu Miu notamment. Et,
exactement.
Et on voit Jeanne Moreau aussi, hein, c'est fou. Une partie assez sombre du film.
Oui, c'est vrai.
Et puis voilà, tu parles de rencontres, il y a un peu de perversion, il y a, je sais pas si c'est, il y a beaucoup d'érotisme, est-ce qu'on peut appeler ça érotisme?
Oui, il y avait quand même une part de, et puis de passage un petit peu plus cru, hein, qui aborde la sexualité, la scène notamment avec Brigitte Fosset dans le train, où elle nourrit son enfant au sein et où les deux viennent. D'ailleurs, ça pose question, hein, aujourd'hui, les valseuses, c'est quand même vu sous un autre angle, hein. On est quand même dans l'après MeToo, c'est envisagé, il y a la question du viol quand même, du consentement. Plusieurs fois.
Mais était-elle consentante ? Faut lui poser la question.
Alors oui, mais dans la scène, il lui donne un billet, il la paye.
Ah,
elle est en train, je me souviens de cette scène qui était quand même assez extraordinaire, hein, où ils se mettent à l'arrière du train, ils ferment les rideaux, elle est toute seule, il n'y a personne, donc c'est très très limite, hein, justement. On ne sait pas si elle a envie de fuir ou pas, elle ne peut pas, elle a son enfant, et eux, ils arrivent et ils essayent, ils ont envie d'être nourris au sein, le fantasme un peu étrange, et il lui donne un billet, je crois, pour voilà.
Le prix
du lait, c'est ça. On peut quand même dire que... Enfin, certains vont dire que le film a un peu mal vieilli, hein, parce que ça ferait quand même hérisser les poils de certaines féministes aujourd'hui. Bon, c'est... Alors après, c'est un film, voilà, il faut le remettre dans son contexte, dans son époque. Hein, justement, il faut en être conscient et il faut l'analyser comme tel aujourd'hui. Ne pas le passer au filtre de notre conscience, hein, post-MeToo.
Bah, de toute façon, il avait été quand même interdit au moins de 16 ans, au moins de 18 ans. Hein,
oui, parce que déjà, à l'époque, c'était très provocateur. Ouais. Il y a aussi des questions questions importantes, hein, comme la question de l'émancipation des femmes, leur liberté sexuelle, la question de la quête du plaisir, hein, puisque Miu Miu, qui est un petit peu embarquée, qui était coiffeuse, je crois, shampouineuse, qui est embarquée par ces deux hommes et qui, en fait, n'arrive pas à avoir d'orgasme. Et c'est un petit peu cette quête qu'elle a, mais bon...
Mais qu'elle a à la fin, non ?
Oui, mais alors justement pas avec eux et avec justement un jeune puceau inexpérimenté.
Mais elle l'a violé ce jeune puceau ou pas ?
Alors pas du tout, non. Il est très consentant et très content. Mais donc c'est vrai qu'il y a des passages un petit peu limites, mais c'est ça qui est super intéressant aujourd'hui et de voir que.
D'ailleurs c'est un film de qui je me rappelle plus, tu vas me le dire.
Bertrand Blier.
Ah Bertrand Blier, voilà.
Ouais.
C'est une époque de ces années 70, une grande libération,
oui, libération
des mœurs,
ouais.
qui vient apparemment de Scandinavie. Qui se développe dans toute l'Europe et on a eu le droit notamment à ce film et puis à toute la série des films Emmanuel en France, plus tout ce qui s'est passé à l'étranger dans les pays scandinaves. Et il y a toute une vague qui a duré jusque, je dirais, fin des années 80 au final. Cette période-là où on a pu connaître nous un peu plus jeunes à l'époque, même dans la télévision de tous les jours, notamment avec les émissions de Stéphane Collaro et autres. Donc c'est quelque chose qui a duré dans le temps. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on revient à des choses un peu plus formatées. Dans les médias ou même dans le cinéma, il peut avoir parfois de la violence. Mais quand on voit l'inverse aux États-Unis, cette facilité à mettre beaucoup de jeunes adolescents dénudés, etc. Donc on se dit, voilà, on nous fait des fois des remontrances par rapport à certaines choses, alors que dans la vie de tous les jours ou dans certaines choses, on voit vraiment une pornographie infantile qui descend de plus en plus au niveau de l'âge. Et c'est de plus en plus inquiétant par rapport à des jeunes mineurs de plus en plus. Il y a des gens qui réfléchissent à tout ça.
Oui.
Non, on décrypte.
Mais oui, et pour revenir sur ce que tu disais un petit peu, c'est intéressant parce que de plus en plus dans le cinéma, il va y avoir un lissage un peu des comportements. Enfin, il y a des choses, qui ne sortiraient plus aujourd'hui, on peut se dire. Mais à l'inverse, sur des plateformes comme Netflix, OCS ou autres, qui vont développer leurs propres films, produire leurs propres films, je trouve qu'il y a un espace de liberté qui se crée.
Sans de censure.
Voilà. Ils peuvent un peu plus faire ce qu'ils veulent. Alors bon ou mauvais, on verra. L'avenir nous le dira. Mais...
Ouais, mais de toute façon, aujourd'hui, avec la consommation de jeunes adolescents dans le domaine du cinéma, en trois clics, ils peuvent aller sur des sites pornographiques qui ne sont pas dans l'érotisme, mais dans des choses beaucoup plus trash. Et parfois, aller sur le darknet rapidement, sur des trucs vraiment illégaux. Non, mais voilà, ça veut dire que aujourd'hui, le chemin du cinéma est assez verrouillé, etc. Mais pour le commun des mortels jeunes adolescents, en quelques clics, ils vont sur des choses. Ça peut décoiffer et ça peut choquer les plus jeunes.
Oui, exactement.
Et voir aussi des jeunes qui ne sont pas forcément majeurs aussi sur ces vidéos et autres, et photos, etc.
Mais c'est pour ça que c'est important aussi la contre-attaque un peu artistique et esthétique et que ça ne soit pas cantonné. Il y a des films de cinéma qui utilisent la pornographie et qui sont très poétiques. Je pense notamment à Gaspard Noé. Love de Gaspard Noé avec des scènes explicites mais avec une histoire. On n'est pas du tout dans un film pornographique pour la pornographie. Ça sert l'histoire. Donc je pense que c'est important qu'il y ait ces créateurs-là pour contrebalancer en fait avec ce qu'on trouve sur internet, un peu tout et n'importe quoi. Tu parlais tout à l'heure cette scène avec Jeanne Moreau, parce que c'est vrai qu'elle était assez marquante, elle sort de prison, c'est cette femme mûre en plus qui tombe sur ces deux jeunes hommes,
une cinquantaine d'années,
oui c'est ça,
50,
mais on sent bien qu'ils ont au moins 15-20 d'écart.
Eux dans le film ils ont entre 20-25,
c'est ça,
et elle aurait 50,
c'est
quoi.
Ça, donc elle a quasi le double de leur âge, et puis il y a une sorte de festin un petit peu, ils se font un festin de nourriture.
Puis elle veut être le festin.
Et elle veut être le festin ensuite. Il y a le passage, ils couchent ensemble tous les trois, mais tout ça pour qu'elle se suicide. Enfin, c'était quand même très très sombre.
Eux, je pense pas qu'ils étaient au courant.
Non, pas du tout, pas du tout. Mais on sent que
c'est son choix, elle.
C'est un peu le repas du condamné, quoi.
C'est fou.
Et donc, allez, pour le plaisir, on va se faire un petit extrait du film bien connu, lorsque justement ils sont en cavale avec Miu Miu au milieu.
Le trio.
Miu Miu qui est totalement muette pour le coup dans la scène, mais entre les deux hommes en train de discuter, on se refait cet extrait.
Maintenant, où on va maintenant ?
J'en sais rien, tu nous emmerdes.
N'empêche que j'aimerais bien savoir où on va, comme ça, simple curiosité.
Te fais pas de soucis, vieux, dans la vie tout s'arrange. T'as jamais de vraie raison de se biler. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un.
On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
Pourquoi pas ? On n'est pas bien ?
Si.
Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland.
Alors on vient d'écouter ce petit extrait emblématique des valseuses hein, qui est souvent repris et on va faire la transition avec un autre film de Gérard Depardieu, notre GG national, même s'il est maintenant russe hein, à moitié.
Oui, russe, belge, ouais, il un est peu quand... tout, mais voilà. Il reste bien sûr un français.
Un grand acteur français. Bah oui, et puis connu à l'international. Ouais. Alors c'est le magnifique film de Rapneau, Cyrano de Bergerac, bien sûr, d'après la pièce d'Edmond Rostand, et qui cette fois a eu plusieurs scène tournée à Dijon, notamment la rue de la Chouette.
Hein, et avec... à l'abbaye de Fontenay aussi.
Et à l'abbaye de Fontenay, c'est vrai.
Ouais. Dans la Côte d'Or d'une manière générale.
Oui, oui. Avec les vieilles pierres, les façades dijonnaises qui servaient de cadre d'époque. Donc Cyrano de Bergerac, un film sorti en 1990, donc réalisé par Jean-Paul Rapneau et qui est vraiment adapté de la pièce de théâtre d'Edmond Rostand. Alors la particularité du film, et j'allais dire un peu la gageure de ce film, c'est qu'il est entièrement rédigé en vers, hein. Il a vraiment adapté du texte, il a modifié quelques petites choses et puis il a rajouté des scènes pour le rendre justement plus cinématographique, mais les scènes rajoutées sont souvent muettes parce qu'il a voulu quand même conserver le texte original, donc les aventures du célèbre et turbulent cadet de Gascogne hein, qui était amoureux de sa cousine Roxane et qui va finalement jouer les entremetteurs hein, en rédigeant des lettres enflammées. Voilà, et le vrai pari du film, c'était cette déclamation en vers. Et on va s'en écouter un petit extrait, un long extrait, long comme le nez, voilà, et la fameuse tirade du nez.
Mais à la fin, il nous ennuie. Il fanfaronne. Alors personne ne va donc lui répondre.
Personne ? Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous ! Vous avez un nez ! Un nez. Très grand.
Très.
Ah !
C'est tout ?
Oui.
Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais atteint le nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap ? Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous patinez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu? De cheminée? Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Python, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe et l'éléphant au camélos, dut avoir sous le front tant de chair, sous tant d'os. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une congue? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Militaire! Pointé contre cavalerie! Pratique! Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin! Parodiant Pyrame en un sanglot! Le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître! Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit? Oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de l'être, vous n'avez que les trois qui forment le mot « saut ».
Voilà, donc magistrale tirade...
Et interprétation.
Voilà, et interprétation de Gérard Depardieu, magnifique.
Et ça lui a valu, bien sûr, ce film, la bascule à l'échelle internationale. Et juste après, il a penché direction l'Atlantique et l'a basculé aux États-Unis avec une série de films américains internationaux. Mmh. Et ça a lancé sa carrière internationale. Parce que c'est vrai, les 20 derniers... dernières années précédentes, avant 90, il était énormément connu en France, dirais, dans la francophonie. Là, elle a vraiment basculé définitivement grâce à Cyrano de Bergerac, déjà avec les prix et tout ce qu'il a pu avoir, les nominations et les sacres. Et le sacre et le succès de ce film, il a basculé carrément une carrière internationale, outre-Atlantique dans un premier temps et après mondiale.
Alors, on va passer là à une autre comédie ayant pour sujet l'amour, hein, comme dans Cyrano, mais beaucoup plus sirupeuse, c'est moins le chef-d'œuvre, et qui, bien que se passant la plupart du temps à Paris, a été tournée quand même à 3 reprises à Dijon. Je parle de L'étudiante de Claude Pinoteau.
Sirupeuse.
Sirupeuse, non ?
C'est de l'amour, c'est de la poésie, c'est de la passion.
Oui, mais bon, on est d'accord que c'est un peu plus cucu, la praline.
Ah oui, oui. Ouais.
Donc avec la belle Sophie Marceau et Vincent Lindon. Oui, c'est vrai, avec des grands acteurs quand même. Hein. Je ne crache pas dans la soupe, mais voilà, la qualité, je trouve, est quand même moindre.
Mais qu'est-ce que préparait la célèbre
C'est Valentine, étudiante qui prépare l'agrégation de lettres. Donc j'ai pu m'identifier. Voilà, donc j'ai regardé ça à la télévision, hein, et qui prépare tellement l'agrégation qu'elle n'a guère le temps de songer à l'amour. Mais elle rencontre quand même Édouard, un musicien dont elle s'amourache. Leurs emplois du temps sont quand même assez complexes à coordonner. Et puis voilà, c'est des « je t'aime moi non plus ». Mais Valentine, très amoureuse, le jour de la grecque, va quand même, sous couvert d'un exposé sur Molière, lui adresser un message d'amour, voilà, le double langage. Bon, on est dans la comédie romantique. On fait de nouveau un intermède musical avec la bande originale de L'étudiante, le titre phare « You Call It Love », interprété par Caroline Kruger, composée par Vladimir Cosma.
Cet artiste d'origine roumaine, français d'origine roumaine, Vladimir Cosma, qui a multiplié les bandes originales de films. Oui. C'est devenu un des plus grands spécialistes au monde.
Things I need to
Voilà pour cet extrait de la BO de L'étudiante de Claude Pinoteau. Et on enchaîne aussi avec un autre film assez populaire, Angélique, Marquise des Anges, la saga. Je pense que tu connais, je sais pas.
Eh oui.
Parce que moi, c'est vraiment...
Je l'ai regardé dernièrement, elle a été diffusée sur les chaînes de la TNT ces dernières mois.
C'est beaucoup repassé. Donc, il y a toute une saga. Hein, je sais plus combien il y a de films. Il y en a 5 au moins.
Ouais, 5 ou 6.
Au moins 5 ou 6. Donc, de Bernard Bordery avec la belle Michèle Mercier, qui était vraiment magnifique. Enfin, moi, je sais que petite, je l'admirais avec des grands yeux. Je trouve même qu'elle est, par rapport à Brigitte Bardot, elle n'a rien à lui envier. Et je crois que... Parce que c'est vrai qu'elle est de la même génération que Brigitte Bardot, Catherine Deneuve. Et oui. Il me semble même que pour Belle de Jour, elle avait été pressentie, Michèle Mercier.
Tout à fait.
Et son agent avait refusé. Et c'est Catherine Deneuve qui, du coup, l'a fait à sa place. Et ça, c'est un des grands regrets de sa carrière.
Ah bah, tout à fait. Il y a eu quelques accros dans sa carrière. Et on sait que dernièrement, dans les faits divers, elle a eu quelques soucis de financiers, d'escroquerie. Elle s'est fait voler.
Oui.
Et elle a beaucoup eu de soucis à titre personnel ces 15-20 dernières années. Mais c'était une femme magnifique.
Oui.
Apparemment, très, très agréable.
Très intelligente aussi. Et en interview, elle fait preuve d'une grande sensibilité. Elle analyse bien. Mais je pense qu'elle avait été mal conseillée à l'époque. Et c'est vraiment dommage parce qu'elle a toujours été cantonnée à ce rôle d'Angélique, un petit peu de film de seconde zone, un peu quasi téléfilm avec la saga, alors qu'elle aurait pu faire du grand cinéma avec des grands. Bon, Angélique, quand même, on peut citer Robert Hossein et Jean Rochefort, qui tournent quand même dedans, de grands acteurs.
Oui.
Et donc, Angélique Marquise des Anges, tournée en 1964 et à l'abbaye de Fontenay, dont tu parlais tout à l'heure.
Oui, à quelques kilomètres de nos studios de Montbard.
C'est ça, et à Marmagne aussi, au village de Marmagne, au château de Marigny-le-Caouet.
Tout à
bien.
Fait, c'est à côté d'ici. Hein.
Voilà, donc dans le coin, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'images qui ont été tournées dans le coin pour ces films d'Angélique, donc adaptés également à de la saga littéraire d'Anne et Serge Gollon, qui avait été publiée dès 1956. Alors, autre film au succès très populaire, La Grande Vadrouille.
Oula,
je vais te faire plaisir avec ça. Donc, La Grande Vadrouille de Gérard Houry en 1966 avec Louis de Funès, Bourville, et qui a été tourné, tu saurais me dire ou pas ?
Dans plusieurs endroits, du côté de la Vallonnais, dans le 89.
Exactement.
Du côté également aussi du Pays Beaunois, comme on dit.
Ouais, et puis aussi à Vézelay.
À Meursault, à côté
à
de Vézelay, tout à fait. C'est dans Lyon, ouais.
Donc, on n'y pense pas forcément, mais il y a eu des lieux de tournage dans la Vallonnais, comme tu dis, dans Lyon. On va écouter un petit extrait de la bande originale de La Grande Vadrouille, donc composée par Georges Auric.
Souviens-toi, c'était en 1966, si on s'écoute le titre, Sur Paris. Et bien là, je pense qu'on a sorti l'accordéon, ambiance...
Oui, musette.
Ambiance guerre, avant-guerre ou après-guerre, la belle époque de notre pays. L'avant ou l'après, pas pendant.
Alors, on va passer à la troisième partie de l'émission où on va parler un petit peu plus d'actualité. Qu'est-ce qui se tourne en ce moment ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? Et qui a été tourné dans la région
Ouais, ces deux dernières années, parce que c'est vrai qu'avec le Covid, ça ralentit un peu le milieu, le métier. Les sorties ont été décalées et les choses qui ont pu être tournées fin 2019 qu'on va retrouver sortir en 2022.
Et oui.
Tout est possible.
Et on aura quand même normalement... On a donc un téléfilm intraitable de Marion Lenne, sorti en mars mars 2021, diffusé sur France 2, et qui traitait de l'histoire d'un viticulteur, lanceur d'alerte, Emmanuel Giboulot. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
C'est un nom de famille connu, ça, dans
oui,
la région.
Oui, voilà, et qui a fait l'objet d'un procès très médiatisé en 2014. Alors, il est interprété par Fred Testo, hein, tu sais, du fameux duo Omar et Fred.
J'ai eu la chance de connaître.
Voilà, donc il joue un vigneron, Gabriel, qui refuse de se plier aux injonctions d'un arrêté préfectoral qui lui impose le traitement préventif de sa vigne aux pesticides. Et donc, voilà, adepte du bio, il refuse de traiter sa terre. Donc, il y a eu tout un procès autour de cette histoire, le téléfilm de Marion Lenne, sorti en 2021. Alors, on a aussi une série télé qui a été diffusée sur Arte, Amour fou. Je ne sais pas si ça te parle.
Alors, je suis un aficionado d'Arte,
ouais.
Mais non, je ne suis pas au courant. C'est pour ça que j'écoute ton émission.
Exactement. Alors moi, j'ai été tombée par hasard dessus il y a quelques mois. Amour fou, donc qui a été tourné en majorité dans Lyon et dans le Jura. Et,
c'est pas loin.
Et donc, c'est une mini-série française en 3 épisodes de 55 minutes environ, créée par Ingrid Desjours et réalisée par Mathias Gokalp. Du côté distribution, donc c'est avec Clotilde M qui joue le personnage de Rebecca, Jérémy Régnier également. Voilà, donc Clotilde M et Jérémy Régnier qu'on a pu retrouver quand même au cinéma, hein, dans beaucoup de films, grands acteurs, je trouve.
Il avait fait Clo-Clo,
ouais. Oui, bah, il joue dans Dick and Egg, dans plein de choses, Jérémy Régnier.
Il est prépondérant depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années. Ouais.
Et puis même pour des petits rôles, hein, parce que je le revois également dans In Bruges, jouer le rôle d'un skinhead. Rasé, il est méconnaissable. Donc il est assez éclectique comme acteur. Alors, donc l'histoire... Pour faire simple, on a Rebecca et Romain qui semblent former un couple heureux dans un bourg de province. Le seul problème, c'est le frère de Romain, hein, Michael, qui est un drogué, instable, violent, qui s'est installé en face de leur maison avec sa compagne enceinte, alors que Rebecca, elle, a des difficultés à avoir un enfant. Et on a des événements étranges et inquiétants qui vont suivre un dîner houleux. Voilà, et je vais pas trop en dire parce que justement, cette mini-série est une série à suspense, hein, donc si vous aimez les thrillers, je vous la conseille parce que on a vraiment une intrigue bien ficelée et un bon suspense dans cette série. Donc la série a été tournée en fin d'année 2018 dans la ville de Sens, hein, en Bourgogne-Franche-Comté, qui a d'ailleurs subventionné la réalisation. Et puis voilà, dans le Jura, on a les beaux paysages du Jura en arrière-plan. On a un film qui a été également tourné dans la région et là qui va être très attendu, hein, qui va sortir en 2022, c'est Notre-Dame brûle, tourné par, tu te rappelles,
la question, non,
non,
absolument pas.
Par Jean-Jacques Hano.
Eh oui, le célèbre film.
Ouais.
Qui avait fait L'Ours.
C'est ça, exactement. Et donc,
qui est souvent dans notre région, Jean-Jacques Hano.
Oui, ouais, il a l'air d'être inspiré par les lieux. Et donc, il va revenir sur l'incendie de Notre-Dame de Paris, hein, d'avril 2019. Il sortira donc 3 ans, jour pour jour, après cet événement dramatique.
Voilà, et enflammé.
Oui, également. On espère que le film sera aussi...
aussi chaud.
Aussi chaud. Jean-Jacques Hano avait annoncé vouloir réaliser ce film sur l'incendie. Hein, et le tournage a débuté en mars 2021, notamment à Bourges, enfin autour de la région parisienne, mais également dans Lyon, puisque la cathédrale de Sens a servi
de copie.
Elle était assez ressemblante, assez proche, et donc ils l'ont utilisée, hein, puisque là, Notre-Dame est en travaux, en réfection.
Il faut savoir que Notre-Dame, cette cathédrale, aura la chance d'accueillir deux magnifiques chênes et d'arbres qui viennent du Châtillonnais, de la région aussi.
D'accord.
Voilà,
tu me l'apprends.
Sa construction, oui, ça s'est officialisé ces derniers mois.
D'accord. Donc, il avait tout d'abord songé à faire un documentaire, mais finalement, il va le transformer en fiction. Donc, rendez-vous le 13 avril 2022 pour voir Notre-Dame brûle. Et puis, je ne pouvais pas faire cette émission sans évoquer quand même notre Alexandre Astier régional.
Tout à fait.
Notre Dijonnais, avec la sortie du volet 1 de Kaamelott.
Ouais. Et son frère et toute l'équipe.
Hein. Exactement, oui. On a toute
la famille. Puisqu'il y a Alban Lenoir aussi.
Alban, hein, Lenoir, oui, oui, il y avait Simon Astier. Mmh. Donc, on a toute la famille. Hein, et c'est vrai qu'il y a aussi Simon Astier qui a tourné Meurtre en Morvan, alors en 2018. Donc là aussi, hein, il a pris les comme décor les forêts morvandelles, comme décor de lieu du crime. Pour revenir au film d'Alexandre Astier, donc Kaamelott volet 1. Alors, il y a eu l'avant-première qui a eu lieu à Dijon le 20 juillet. Alors, j'étais présente à cette avant-première et il y a vraiment un démarrage sur les chapeaux de roue, puisque en l'espace de 2 jours, on a eu plus de 400 000 entrées. Alexandre Astier, apparemment, en était lui-même assez surpris. Les fans de Kaamelott étaient au rendez-vous, puis je pense que après l'attente générée par le Covid hein, qui a vraiment retardé la sortie du film, il y avait vraiment une grosse attente autour de ce film. Kaamelott, alors franchement, j'ai beaucoup ri, moi. Je sais qu'il y avait une attente.
Tu étais à l'avant-première.
J'étais à l'avant-première.
Et il y en a une donc à Dijon, je pense que là un peu dans la région ou à l'échelle nationale.
À l'échelle nationale, oui. Ouais. Il y en a eu à Lyon. Je crois qu'Alexandre Astier était présent d'ailleurs. Mmh. À Paris, sans doute. Mais il y en a eu à Dijon. C'était pas dans toutes les villes. Et d'ailleurs, c'était assez sympathique hein, cette avant-première avec un petit quiz. On a eu des distributions de lentilles à l'entrée. On pouvait acheter des planches charcuterie fromage en hommage à Caradoc.
Ah oui.
Donc c'était
alors
sympa.
Toi, t'étais au bon endroit pendant que moi j'étais avec un autre acteur.
Oui,
avec Alban Lenoir. C'est à peu près au même moment. Et on savait pas qu'on était tous les deux dans l'esprit du film.
Eh oui.
Involontairement.
Ah, oui,
c'est fou quand même.
À l'apéro charcuterie, c'est ça.
Oui, notamment presque ça, presque simultané, sans en avoir parlé. On était tous les deux dans l'univers des Kaamelott sans vraiment le savoir.
Et donc, petit avis personnel, comme j'étais à la...
Donne-nous ton impression.
Mon impression, c'est que c'était assez émouvant de revoir tous les acteurs 12 ans après, quand même. Hein. 12
ans
après. Bon, quelques petits défauts scénaristiques, j'ai trouvé quelques petites longueurs parfois. En revanche, la première demi-heure de film, vraiment très réussie, avec des gags. Alors non, je sais qu'Alexandre Astier déteste qu'on dise gags, mais avec des punchlines ou
des séquences humoristiques
vraiment... très bien mené, à point nommé. Moi, j'étais morte de rire. Voilà, du début à la fin. Ça n'a pas gâché le plaisir. Voilà les quelques petits défauts.
Et puis, je pense que la salle a bien...
La salle a très bien réagi. Il y a eu des applaudissements à la fin. Et puis, on note quand même la présence de Sting, quand même, joue dans Kaamelott.
Et oui, et mais il joue pas de la musique. Il fait quoi? C'est quoi son rôle dans...
Ah, son rôle, il fait partie des méchants.
Ah, ok,
voilà.
D'accord.
Je n'en dirai pas trop, mais...
Oui, en bon anglais.
Exactement. Alors, il joue les Saxons, justement.
Ah, voilà.
Les Saxons.
Les Anglo-Saxons. Saxons.
C'est ça. Et voilà, je vous invite à aller le voir. Il est encore au cinéma actuellement, donc n'hésitez pas à y aller.
Eh bien, il y a des bonnes nouvelles, en l'occurrence, à venir dans les sorties dans le cadre de notre émission. Tu as annoncé pas mal de choses, Magali. Et pour cette première émission, on a déjà bien fait le tour. On est reparti un peu dans l'histoire, la machine historique. Et bien sûr, on est revenu rapidement chez nos contemporains.
Au présent,
à
l'actualité.
Et informer les gens sur le futur. Voilà, dans l'émission Cinémag, qui est ton émission maintenant, donc vous aurez le plaisir de retrouver Magali régulièrement, presque chaque semaine, pour une émission cinéma. Il y aura des rediffusions. Alors, je pense qu'il faut que tu donnes aussi, tu redises les dates et les jours de diffusion.
Voilà pour cette première émission. Et puis, justement, vous pourrez me retrouver donc le mardi à 17h, le jeudi à 20h en rediffusion et le samedi à 17h, ainsi qu'en podcast.
Tout à fait. Et en plus, c'est des horaires où on peut écouter l'émission et puis après, on peut aller directement au cinéma.
Au cinéma, parfait.
Sans aucun souci. Si vous n'avez pas le temps d'aller au cinéma, eh ben c'est simple. Prenez un DVD, prenez aussi un Blu-ray.
Voilà.
Et n'hésitez pas, ou même un Laserdisc, tu te rappelles à l'époque, ou une cassette VHS.
Ah non, là c'est has-been.
Ah, tout est possible, hein, quand on aime le cinéma, on peut se mettre en 8 mm et tout. Hein,
oui,
tout est possible. Il y a
toutes les plateformes légales de téléchargement.
Donc n'hésitez pas à consommer cinéma, n'hésitez pas en l'occurrence. Hein.
Cinéma et séries même. D'ailleurs, ce sera l'objet aussi de prochaines émissions, parce que vraiment les séries prennent une part importante aujourd'hui de la consommation un peu filmique.
Et qu'est-ce qui fait le lien entre les deux, entre le cinéma et les séries? Les pop-corns. On peut le prendre pour n'importe quel, du moment qu'on a une toile devant et qu'on regarde quelque chose qui nous émerveille. Ben, les pop-corns, on peut en manger autant qu'on veut.
Avec modération quand même.
Voilà, voilà.
Voilà pour cette première émission que j'ai eu le plaisir d'animer avec Cédric. N'hésitez pas à aller la réécouter en podcast et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode.